Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette revue de l'actualité hebdomadaire. Nous vous proposons dans ce forum de la presse de parler du nouveau gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga. La grogne sociale à quand la fin? Nous en dirons deux mots. L'installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudéni reportée une fois de plus. La première session 2017 de la HAC se tient. Plusieurs radios vont être fermées. Pour parler de tout ça, mes chers amis, nous avons invité Togola Hawa Semega de Kunafoni.com, Serge Daniel qui est journaliste. Journaliste écrivain Shahana Takiou du 22 septembre, Bandiku Dante, journaliste non moins président de l'URTEL. Je suis Ousmane Djadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedoumbo.
Le Grand Dialogue.
Un nouveau gouvernement de 35 membres. Serge Daniel, on vous a écouté sur certains médias. Alors, que pensez-vous déjà de ce tout nouveau gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga?
Écoutez, le Big Bang qu'on attendait n'est pas arrivé. Je pense que le président de la République est éternellement un homme qui a un fusil à un seul coup. Il se dit, il faut que je vise bien. Le problème, c'est qu'il ne tire pas. Voilà. Parce que un mois avant, vous vous souvenez par exemple que c'était la journée de la femme, et il disait qu'il allait respecter, par exemple, dans le futur remaniement, etc., les fameux 30% de participation dans son gouvernement des femmes. Bon, il y a 8 ministres dans le gouvernement, c'est un gouvernement pléthorique, 35 membres. Vous avez quand même le fait marquant, c'est que en moins de 4 ans, nous avons 5 ministres de la Défense, c'est quand même inquiétant.
Et 4 premiers ministres.
Je pense que le président de la République n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Peut-être qu'il le dira un jour dans ses mémoires. Je ne suis pas dans le secret des dieux.
Merci, Shahana Takiou. On a également observé de près vos analyses de ce gouvernement dans le 22 septembre. Alors, qu'en pensez-vous réellement?
Oui, je pense que former un gouvernement n'est pas facile. Sur 15 ou 16 millions de Maliens, s'il faut prendre une vingtaine de personnes ou 35 personnes, c'est difficile. L'accouchement d'un gouvernement est très difficile. Ce qui fait qu'il y a des déçus, il y a des déceptions, y compris dans les rangs du parti majoritaire.
Le parti majoritaire qui a quand même
le RPM.
Gagné la primature.
Il a la primature, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des mécontents au sein de ce parti. Il y a des mécontents dans les rangs des alliés. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. On fait avec la composition actuelle et on attend le résultat. Pour moi, ce n'est pas la composition du gouvernement qui compte, c'est surtout les politiques à mettre en œuvre, les politiques sectorielles. Est-ce que tu vois l'objectif à atteindre? Et je pense qu'il faut donner 3 à 6 mois pour avoir vraiment une idée réelle de ce que ce gouvernement-là peut ou pourra faire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que moi je vois la chose.
Merci. Togola Wasemega, vous êtes de Kunafoni.com. Alors, le quota de 30% de représentativité des femmes n'est visiblement pas respecté. Serge a parlé de 8 femmes, ministres. Moi, je parlerais peut-être de 7, selon certains analystes.
Oui. On dit qu'il y en a 7. Non, il y en a 8, parce qu'il y a un nom qui prête à confusion. Moi-même, je croyais que c'était un homme quand j'ai vu. Je ne me rappelle plus du nom. C'est assez bizarre. Voilà, donc j'estime que le quota n'est pas atteint. C'est assez dommage quand même. Sur 35 ministres hommes, on n'a que 8. C'est trop peu et j'estime que 35 même déjà, c'est extrême, c'est excessif. Et il faut être vraiment pragmatique dans tout ce qu'on fait. Et j'estime que le changement qui était attendu, malheureusement, on n'a pas vu ce changement de fond. Y a certains ministères qui sont là. Je ne vois pas l'utilité de ces ministères-là. J'estime sincèrement qu'ils... si c'était pour avoir ce gouvernement,
vous pouvez le dire,
si c'était pour avoir ce genre de gouvernement, je pense que c'était même pas la peine de faire un remaniement, surtout à une année des élections présidentielles.
Alors, Bandiku Dante, président d'URTEL, journaliste, est-ce que la montagne a accouché d'une souris?
Moi, je dirais pas ça, mais je dirais quand même que le gouvernement, à mon sens, loin de juger, mais c'est pas équilibré, parce que un gouvernement doit refléter les conditions dans lesquelles et le temps pendant lequel il est mis en place. Donc, à mon sens, Il s'agit de mettre en place un gouvernement qui reflétera les enjeux du moment. Bon, dans certains cas, je sens une certaine cacophonie, une certaine répétition. Par exemple, quand on dit ministre de la décentralisation et de la fiscalité locale, moi j'aimerais savoir le contenu qu'on donne parfois à la fiscalité locale quand on sait aussi qu'on a un ministère des finances qui relève, dont les services des impôts relèvent souvent de ces ministères-là. Donc je pense que le gouvernement ne me paraît pas équilibré. Équilibré dans sa composition.
Non, Dante, fiscalité locale, c'est différent de l'autre fiscalité. Fiscalité locale, c'est au niveau des communes. Ça, c'est la fiscalité locale, c'est vraiment correct.
Il n'y a pas de correction à ce niveau. S'il vous plaît, Chana.
C'est différent.
Chana, s'il vous plaît, je pense que. Chana, je vous en prie. En termes de fiscalité, ça renvoie à la notion des finances. Maintenant, aujourd'hui, quand on parlait peut-être des transferts des ressources, mais fiscalité locale, est-ce que les ressources aujourd'hui qui sont attribués à sa collectivité territoriale ne sont pas donnés par un département qui est le département des finances. Aujourd'hui, quand les recouvrements sont faits, n'est-ce pas, les montants qui se trouvent au niveau du trésor envoyé, des impôts envoyés au trésor sont mis à la disposition des collectivités par un département. Donc, je pense que les collectivités ne sont pas là pour faire des prélèvements directs, mon ami.
Mon sentiment, si je peux me permettre, mon sentiment aussi, c'est que on a fait un remaniement essentiellement pour faire partie le Premier ministre. Ça, c'est mon point de vue. La deuxième remarque que je souhaitais faire, si vous m'autorisez, c'est que il y a quand même un gouvernement de campagne, il y a un air de campagne électorale, c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est la présidentielle, et vous voyez, le principal allié du président dans la majorité, c'est l'ADEMA. On renforce l'ADEMA avec 4 ministres, c'est important. Le Premier ministre est très politique, c'était le directeur de campagne du président l'an 2013. Vous avez le ministre de l'Agriculture qui est partant, monsieur Desnoms. Non, personne ne lui reproche quelque chose. C'est quelqu'un de brillant. Il est brillantissime, si vous voulez. Mais il est moins politique que le nouveau. Le nouveau qui est sur la National 7, c'est-à-dire Versicasso, mais qui est du parti au pouvoir. La présidente, la prochaine, la ministre de la promotion de la femme, qui est une grande dame, elle n'était pas marquée au fer et RPM, disons les choses comme ça. Mais elle était plutôt elle est la patronne de toutes les associations féminines du Mali. Et donc, il y a quand même un air de campagne, je voulais me permettre de dire. Quand on regarde à la loupe la formation de ce nouveau gouvernement.
Moi, je viens vous demander l'entrée de Mouloud Benkatra, le syndicaliste au gouvernement. Est-ce que c'est de nature justement à apaiser les choses au niveau des relations sociales?
Il y a eu un communiqué aujourd'hui de l'UNDM qui s'est démarqué de sa nomination.
Absolument.
Ce qui veut dire que, vous savez, il se considère probablement comme un ministre citoyen. Mais si on le nomme, c'est parce qu'on veut éteindre le feu. Si vous voulez, on va parler de la crise de l'état d'avancement des négociations avec la grève qui risque de s'arrêter, ne serait-ce que pour un moment. En allant le choisir, c'est pour calmer le front social. Mais malheureusement, il a été choisi sans le feu vert de l'UNTM. Et l'UNTM a désapprouvé sa nomination.
Bon, le cas de Mouloud Katra me semble être un cas qui a fait du mécontent, qui a fait de la jalousie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Mouloud Katra, secrétaire général adjoint de l'INTM, et Katilé, le secrétaire de l'INTM, sont des ennemis jurés. Et Katilé, tout le monde sait que sa femme est une femme très politique, qui est de l'ADEMA, qui était candidate aux législatives dernières, qui a mordu la poussière. Elle a remis ça à la faveur des municipales, elle a encore mordu la poussière. Et à la faveur de ce remaniement, Katilé, aussi bien que sa femme, ont actionné leurs différentes raisons pour que Mme Katilé soit dans le gouvernement. Cela n'a pas été le choix à porter sur Mouloud Katra. Ça fait forcément des jalousies au sein de l'INTM, parce que Katilé, c'est un richissime douanier. Et il maintient les gens par ce que vous savez au sein de l'INTM. Donc l'INTM pond aujourd'hui un communiqué pour se désolidariser de Mouloud. Encore que nulle part on a dit qu'il est rentré au nom de l'INTM. C'est vrai, il est de la société civile, on peut prendre qui on veut. C'est vraiment une question de jalousie et de règlement de compte entre Katilé et Katra.
Moi, je ne remets pas, moi, je ne remets pas en cause les compétences de Mahmoud Katra, mais le contexte dans lequel il a été choisi pousse tout le monde à s'interroger. L'UNTM, quand même, c'est une centrale syndicale à un moment donné où le Front social est en ébullition. Je pense que le moment pour un syndicaliste d'un certain niveau d'entrer dans un gouvernement pousse les gens à s'interroger.
C'est clair. Justement, est-ce que le choix des ministères clés, à savoir la défense et l'administration territoriale, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? On voit le retour de Tchema Hubert, justement, à l'administration territoriale, et on voit le grand retour également de l'autre Koulibaly, hein, à la défense.
Tout à fait.
Il est arrivé aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, j'estime que le retour de Tchema Hubert, j'ai rien contre lui, mais j'estime vraiment qu'il n'avait pas à revenir dans le gouvernement. C'est mon point de vue personnel.
Pourquoi?
Sept mois après l'avoir quitté, j'estime qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de compétences au Mali. Je pense qu'on doit, donner la chance à certaines personnes. Il ne doit pas venir parce qu'il était déjà là. Il a fait ses preuves. On l'a vu. Il a fait ses preuves. Donc, j'estime qu'il est important de donner l'opportunité à d'autres personnes d'intégrer le gouvernement et de faire leurs preuves également.
Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Vous savez, il était ministre de la Défense. Il a rendu sa démission. Il a été destitué, viré, parce que l'armée avait perdu sur le terrain une position importante, c'était à Boni, si vous vous souvenez. Donc il fallait que Pic paye, c'est un acte républicain qu'on lui demande de proposer sa démission. Mais c'est arrivé à Boubeï.
Ce qui n'a pas été le cas de Moussa Mara, par exemple.
Mais Moussa Mara, c'est autre chose, il était premier ministre, chef du gouvernement. Boubeï, c'était la même chose pour Kidal. Kidal, qui sait s'il était vraiment impliqué, je ne crois pas. Donc c'est normal qu'il paye, mais cela ne veut pas dire qu'à partir du moment où il démissionne, il ne revient plus jamais au gouvernement. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que il fut un excellent ministre de la Défense. Je pense qu'il peut conduire le pays aux élections, mais je pense aussi qu'il y a une stratégie politique derrière son retour, parce que le président de la République a besoin d'élargir sa base politiquement, si vous voulez.
Est-ce à dire qu'il se prépare déjà pour les présidentielles de 2018
Je pense, surtout que le président, si vous voyez comment les hommes qui sont rentrés dans le gouvernement, l'impression que moi j'en aurais terminé, parce que je monopolise un peu trop la parole, c'est que au sein du RPM, il y a des mécontents. Je pense que la tendance Teretta, qui est l'ami de quelqu'un de nous quatre ici, n'est pas contente. Cette tendance n'est pas contente. Donc le président de la République, à mon avis, veut élargir sa base, mais il fait quand même attention à ce qui se passe au sein du parti. Parce que si Teretta a aujourd'hui le parti en main, il a le parti en main, les sections, etc., mais il n'a pas forcément la majorité. Et il fallait tenir compte de ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a essayé aussi d'élargir sa base politique.
Serge le provoque.
Alors, Togola Semega, on parle de 35 ministres, mais est-ce que si on ajoute par exemple Boubeï Maïga qui a rang de ministre, le secrétaire général adjoint de la présidence Ben Barka qui a également rang de ministre, et M. Touré du commissariat à la sécurité alimentaire, on ne dépasse pas largement les 35 là.
Non, mais c'est clair.
Et puis, le premier ministre.
Bien sûr.
C'est pour ça lui, il est premier ministre, donc il est ministre aussi de la République.
Exactement, et ça fait vraiment trop pour le budget national. J'estime que c'est dommage. C'est trop.
Bon, moi, je ne comprends pas sous l'angle de l'effectif, mais je comprends sous l'angle de l'efficacité. L'efficacité de l'équipe. Parce que avoir un gouvernement d'une taille assez élevée, si ce n'est pas. Difficilement, ça prendra en compte la question d'efficacité. Moi, je pense que l'effectif aurait pu être plus réduit en ciblant les besoins prioritaires des populations pour le moment, plutôt que de procéder parfois à une distribution de postes ministériels qui aboutira à une cacophonie et les ministres vont même se marcher sur les pieds.
Dernière question sur ce volet. Chan Attakiou, le président de la République, a fonctionné en tant que Premier ministre avec 18 ministres et c'était quand même...
Les temps ne sont pas les mêmes. Un gouvernement est hautement politique. Quand vous voyez au Niger, nous sommes dans plus de 40. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique,
au Ghana.
J'ai dit, vous laissez, les comparaisons sont permises, monsieur. Quand vous partez en Afrique centrale, nous sommes dans les 100. Au Ghana, récemment, on est à 104 ministres. Un gouvernement répond à des objectifs à la fois politiques et sociaux. Le président de la République seul est habilité à déterminer la taille du gouvernement.
Le Premier ministre ou le président?
Le président de la République. Le président de la République. Il a cette prérogative constitutionnelle que personne ne peut lui discuter. Il arrête la taille du gouvernement en fonction des orientations politiques et des réalités du moment. Donc
les gens
vraiment,
ont le droit d'exiger l'efficacité.
J'ai dit, oui, l'efficacité, on le verra après. La taille, c'est autre chose. Il était souhaitable. Je peux comprendre ça, qu'on ait 30, 25, mais le président a choisi ce cap-là. Maintenant, il faut juger le gouvernement au résultat. Il faut le juger sur sa politique qu'il va présenter à l'Assemblée nationale. Où est-ce que ce gouvernement veut nous amener? Qu'est-ce que ce gouvernement veut faire et attendre le résultat? Moi, je pense que je le juge beaucoup plus sur ce terrain-là que sur la taille qui me semble être protocolaire.
Merci, Charles Attakio.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Nous entamons à présent le second thème de cette émission. Sont avec nous sur ce plateau Togola Hawa Semega de Kunafoni.com, Serge Daniel, journaliste, écrivain, Shahan Attakio du 22 septembre, Bandiku Dante, journaliste et président de l'URTEL. Depuis le 9 mars dernier, le secteur de la santé connaît une grève qui secoue le pays en plus de la grève des enseignants. C'était les magistrats en février dernier. Les services de douane seraient également en grève, Shahan Attakio. Une grève illimitée. Le
signe a été porté par rapport à la douane.
D'accord. Le Synacodem menace lui aussi d'entamer un mouvement de grève à Togola Ouassemeka. Alors, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à trouver des solutions rapides. Est-ce que vous y croyez vraiment?
Bon, j'espère, parce que ça a trop traîné. J'estime que le gouvernement a trop tardé avant de réagir, parce qu'il y a eu assez de... Ça a touché beaucoup les populations. Quand on sait que la plus grande majeure partie de la population malienne n'est pas, on va dire, aisée, il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur les cliniques privées qui sont pas accessibles à tout le monde forcément. Et la réaction du gouvernement, peut-être que ça a été fait vu à travers le départ du ministre de la ministre de la Santé, mais je pense que le gouvernement a trop tardivement réagi. Il est temps que ces grèves-là s'arrêtent.
Bandiku Dante, justement.
Moi, je me demande pour quelle raison aujourd'hui on assiste à une radicalisation des positions partout, comme si les gens ne parlent pas le même langage, comme si les gens n'ont pas en commun le même vocabulaire. Parce que aujourd'hui, tout le monde devient radical. Voilà. Donc, ce radicalisme s'explique par quoi? Est-ce un mépris de la part des gouvernants? Est-ce que c'est des objectifs politiques qui guident aussi ces revendications? En tout cas, aujourd'hui, honnêtement, citoyen ordinaire, je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux Maliens pour que les gens n'apprennent plus à se comprendre, à s'écouter et à trouver au moins un compromis qui pourrait être salutaire pour les uns et les autres. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a le mépris et l'arrogance des dirigeants face à des groupes porteurs de revendications, mais lesquelles les revendications portent souvent une saveur politique.
Merci. Serge Daniel, justement, si la taille du gouvernement était réduite aujourd'hui, est-ce que cela aurait lancé un message et aurait peut-être apaisé les tensions sociales?
Peut-être, parce que ce qui se dit, c'est « Ah, mais voilà, il faut un gouvernement de 35 membres, et donc ils ont de l'argent pour les ministres, et nous, ils n'ont pas d'argent pour... » Je pense que la stratégie du gouvernement face au Front social n'a pas été une bonne stratégie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une grève pour régler les problèmes. Généralement, ce qu'il faut faire, il faut avoir une commission... Pour discuter, pour baliser le terrain avant que la grève n'arrive. Ce qui s'est passé est simple. Les magistrats ont commencé. Lorsque les magistrats ont obtenu ce qu'ils ont obtenu,
les magistrats qui n'excluent pas de revenir.
Exactement. Les gens se sont dit, mais voilà, le problème, c'est qu'il y a une cagnotte. Oui. Il y a une cagnotte, et puisqu'il y a une cagnotte, il faut que, madame, nous partageons en ce moment la cagnotte. La grève du secteur de la santé était très, très mal gérée. Oui. Le gouvernement s'est trompé de la détermination des grévistes parce que le gouvernement a pensé que, évidemment, on pouvait pas, aucun État qui se respecte ne peut accepter à 100% ce que demandent les gens de la santé. Ils ne pourront pas, il n'y a pas d'argent. Si vous faites ça, c'est terminé. Mais le gouvernement s'est trompé. Pourquoi? Le gouvernement s'est dit, non, ils vont gréver pendant une semaine, et après ils vont reprendre parce qu'ils vont constater que dans les hôpitaux, dans les CESCOM, il y a des victimes, il y a des morts. Non, les gens ont durci leur position. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait plusieurs reportages, contrairement à Shahana, dans les hôpitaux.
J'en ai fait.
Non, je ne vous ai pas vu là-bas.
pas. Mais ce qui était frappant dans les hôpitaux, c'est de voir les malades qu'on ne pouvait pas soigner. C'est-à-dire, au lieu d'en vouloir aux médecins, au lieu d'en vouloir aux infirmiers, ils en voulaient plutôt au gouvernement. Parce que, ouais. Donc ça a été quand même... Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de très important, j'en aurais terminé, c'est que tout le monde se radicalise. Il y a une espèce de radicalisation du front social, du front politique aussi, si vous voulez. Mm-hmm. Et là, c'est quand même un signe que quelque chose ne va pas.
Tchana, est-ce que vous comprenez justement cette radicalisation du front social et est-ce que le gouvernement a les moyens de satisfaire toutes ces revendications-là aujourd'hui ?
Je ne comprends pas du tout. Quelqu'un disait pour Serge et moi la semaine passée qu'il y a un grand complot qui se prépare contre le régime. On ne croyait pas. Mais je vois que ce complot est en train de se mettre en place, de se raffermir. Comment comprenez-vous, dans un pays comme le nôtre, un pays qui est dans le trou, que le gouvernement s'évertue à enlever dans le trou, avec toutes les difficultés que vous connaissez avec la crise du Nord, qui nécessite aussi des moyens colossaux, au moment où le pays peine, au moment où les difficultés assaillent le pays de toutes parts, c'est en ce moment-là que des fils de ce pays se permettent de radicaliser leur position, de demander, de formuler des revendications qu'ils n'ont jamais formulées depuis l'existence du Mali jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que ces revendications ne sont pas justifiées?
Tout est justifié dans notre pays, tout est urgence, tout est justifié, les gens ont droit à tout.
Justement,
mais quand il y a père de famille, nous le sommes. Nos enfants ont souvent besoin de choses, nos épouses ont besoin de choses que nos moyens ne nous permettent pas de le faire. On ne le fait pas.
Chana, madame, je ne peux pas. Il n'y a aucun complot contre le gouvernement.
Il y a les éléments de complot qui sont en train de se mettre
mais
en place.
C'est le gouvernement
et
qui a permis ça.
Et l'incompétence de l'UNTM, la position de l'UNTM en est un élément.
Si on parle
depuis combien de temps les agents de la santé sont en grève? L'UNTM n'a pas bougé le doigt. L'UNTM n'a pas chuchoté un mot aujourd'hui ou un de leurs. Et entrer au gouvernement par jalousie ou pour autre chose, l'UNTM monte au créneau, il lance un ultimatum. Non, l'UNTM est en train de gérer des humeurs. L'UNTM est en train de gérer des règlements de comptes. C'est parce que l'UNTM a failli que les revendications sectorielles même ont pris le dessus sur les revendications générales des travailleurs.
Justement, peut-être que l'UNTM a failli. L'UNTM a failli, peut-être. D'accord. L'UNTM a failli. Je n'en disconviens pas, mais j'estime que le gouvernement.
On vous redonne la parole dans 30 secondes.
D'accord.
Moi, je pense qu'il n'y a pas un appareil qui maîtrise le patriotisme de quelqu'un. Ce que Chana a dit, ça m'inquiète quand on est qu'un complot se prépare. Nous pensons qu'un complot doit venir de l'extérieur. Au Mali, nul ne peut se dire plus patriote que les autres. Cela inquiète tout le monde parce que nous n'avons que ce pays en commun. Et chacun doit faire en sorte qu'on puisse maintenir cet équilibre. Aujourd'hui, disons-nous des vérités. Si on laisse des problèmes qui peuvent être gérés par un dialogue franc et constructif, rapidement, la solution peut être trouvée. Mais quand on méprise des gens porteurs...
On a méprisé personne. Il y a eu bel et bien dialogue, mais les moyens ne sont pas là pour satisfaire les uns les autres.
On laisse Dante terminer.
Le sage Modibo Keïta a engagé les dialogues.
Il y a eu des échanges.
Mais il n'y a pas les moyens pour satisfaire les uns les autres.
S'il te plaît, tu peux me laisser aller au bout de mon raisonnement.
On peut parler maintenant.
Merci, Chana.
Tu peux me laisser aller au bout de mon raisonnement.
Allez-y, monsieur.
Moi, je pense que dans un pays, par exemple, on confie la gestion d'une situation à un ministre. Et on sait très bien que le ministre a des pouvoirs limités. Alors, pour quelles raisons ne pas intervenir rapidement pour gérer? Un ministre de la Santé qui voit son secteur embrasé, un ministre de l'Éducation nationale qui sait là où s'arrêtent ses prérogatives, et dans ces conditions, qu'est-ce qui doit être fait? Même le Premier ministre, dans certains cas, a des pouvoirs limités. Donc, rien n'empêche les Maliens d'être en face. Mali, c'est notre maison. Honnêtement, ce que vous demandez, vous le méritez. Mais comprenons-nous. Mais quand si le problème est laissé, c'est développé, prospéré, et au moment où ça devient grave, c'est en ce moment qu'on s'appuie sur des leviers sociaux pour gérer. Mais honnêtement, les gens se radicalisent. Donc, radicalisme du côté du gouvernement, mais radicalisme dans la négligence, mais aussi radicalisme du côté des gens porteurs des revendications, quelle que soit leur légitimité. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont du domaine de la santé doivent avoir un cœur. On a beau avoir certaines revendications légitimes, on ne peut pas laisser mourir des populations incapables de se soigner, quel que soit le comportement de ce gouvernement. Moi, je m'inquiète.
Merci. Togola Ouassemega, justement.
Oui, je voulais dire justement, c'est clair. C'est vrai que l'UNTM a quelque part tardé avant de réagir, a failli quelque part. Mais j'estime que ce n'est pas, je ne vois pas du tout un complot qui se dessine. Peut-être que Shahana est au courant de quelque chose. Et je pense que c'est le gouvernement, qui a fait que cette situation est arrivée à ce point-là. Parce que Serge l'a dit tout à l'heure, ils ont très mal géré le dossier de la santé, la grève de la santé et toutes les grèves en général. Tu vois, quand la grève des magistrats est passée, ils ont géré, ils ont payé les gens et tout. Donc les autres secteurs aussi se sont dit, mais ça veut dire qu'il y a l'argent, il y a des ressources qui sont là. Donc pourquoi est-ce que nous aussi, on ne va pas poser nos revendications ?
Alors, Togola Ouassemega, parlons un peu des conséquences socio-économiques de ces différentes grèves. Apparemment, la grève de la santé nous empêche de regarder les autres, tels que l'enseignement, par exemple, qui est tout aussi grave. Alors, on voit qu'il y a M. Agerlaf qui va à l'enseignement, professeur Sambasso qui vient à la santé. Est-ce que les hommes, ces hommes, sont capables aujourd'hui de gérer ces situations-là ?
Non, j'espère qu'ils seront capables de gérer la situation, parce qu'on sait... Professeur Sambasso, on l'a connu, on le connaît en tant que monsieur Ebola. Et j'espère que la manière dont il a bien géré le dossier Ebola, il va bien gérer le secteur de la santé et vraiment trouver une solution adéquate et à long terme, je ne dis pas définitive, mais à long terme pour le secteur de la santé.
Agerlaf, l'éducation ?
Je ne sais pas trop.
Merci. Nous allons parler à présent des autorités intérimaires de Tombouctou. L'installation de ces autorités intérimaires qui n'est toujours pas effective à Tombouctou et à Taoudéni, le CJA refuse toute mise en œuvre toute mise en place de ces autorités intérimaires tant que certaines de leurs revendications ne sont pas satisfaites. Assetou Kanté nous a fait un papier d'analyse. On l'écoute.
À Tombouctou, les autorités régionales justifient ce report par le remaniement ministériel survenu ce vendredi. Selon elles, il s'agit de permettre au nouveau ministre de l'administration territoriale de prendre contact avec le dossier des autorités intérimaires. De leur côté, la société civile et le Congrès pour la justice d'Alazawad campent toujours sur leur position. Pas d'installation d'autorités intérimaires sans leur inclusion dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Ces responsables ont organisé hier une marche pacifique pour protester contre la mise en place de ces autorités. Dans une déclaration remise au gouverneur de Tombouctou, le CJA estime que leurs doléances n'ont toujours pas été satisfaites par le gouvernement. Selon le mouvement, cela fait plus d'un mois qu'ils sont en négociation, mais sans une suite favorable. D'ici le 19 avril prochain, ils espèrent qu'une solution à l'amiable sera trouvée. Assetou Kanté depuis Tombouctou pour Studio Tamani.
Alors Serge Daniel, quelle est la réelle représentativité du CJA sur le terrain ? Oui, est-ce qu'ils ont réellement les moyens militaires ?
Est-ce que vous vous souvenez du CJA ? Le CJA est le premier mouvement armé au nord-ouest du Mali, des Kalantha, qui a hissé le drapeau national à Gargando, parce que le CJA était dans la SEMA à l'époque. Ils sont partis avec Nasser, et ils sont venus à Gargando, c'est quand ils ont claqué la porte de la SEMA, ils se sont dit, nous sommes républicains. Ils ont hissé le drapeau national à Gargando, à l'époque. C'était le premier mouvement au nord-ouest. Et comment voulez-vous aujourd'hui que ce même mouvement ne soit pas content du gouvernement ? Ça veut dire que le gouvernement a fauté quelque part. Là encore, c'est un manque de dialogue, manque de vision sur le terrain. Comment vous voulez nommer, moi je ne vais pas citer de nom, vous voulez nommer que Pomme est président des autorités intérimaires à Taoudéni par exemple, quelqu'un qui n'a jamais presque été là-bas, non. Ou bien quelqu'un de moins qui vit ici à Bamako. Vous ne pouvez pas le faire sans une grande concertation. Et ce que dit le CJA est peut-être normal, il dit nous contrôlons, on a vu quand même qu'ils contrôlent une partie de Tombouctou, puisqu'ils ont empêché l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou, puisqu'ils ont pris le contrôle des checkpoints de Tombouctou. Donc là encore, c'est une... Excusez-moi de le dire, je suis pas en train de taper sur le gouvernement comme sur un tambour, mais c'est un manque de vision de responsables qui nous gouvernent dans une situation donnée. Le meilleur allié du gouvernement dans le nord-ouest du Mali, c'est le CJA. Et pourquoi ils seraient fâchés ? Mais il faut comprendre que ces gens comptent parce qu'ils ont quand même les armes. Aujourd'hui, dans le nord du Mali, c'est ce qui se passe.
Est-ce qu'ils pèsent lourd, justement ?
Ils pèsent quand même en partie lourd, puisqu'ils contrôlent une partie de la localité, de la ville de Shahana Takio. Shahana Takio ne peut pas aller aujourd'hui à Tombouctou sans demander le feu.
Serge,
mais si, c'est eux qui ont...
Ils ne font pas partie
j'en ai terminé.
C'est une petite partie
Ils contrôlent la ville, puisqu'ils ont empêché à Tombouctou, je dis Tombouctou intramuros, l'implantation des autorités intérimaire. Donc, il faut dialoguer avec tout là. Il faut dialoguer avec eux comme on a dialogué avec ceux de Gao. Sinon, ça ne marchera pas. Vous avez vu la date qui avait été prévue, c'était le 13 avril. Mmh. Ils ont fait un communiqué la veille pour dire le 13 avril, il n'y aura pas d'installation d'autorité intérimaire. Donc là encore, il faut discuter, il faut négocier.
Alors, les excuses justement du gouvernement, c'est sur émaniement. On attend que le tout nouveau ministre de l'administration territoriale prenne fonction.
C'est ce qui est vraiment convaincant. Ce n'est pas l'attitude du CJA qui a fait qu'il n'y a pas eu de mise en place des autorités intérimaires. Que non, je pense que c'est dû au remaniement ministériel. Et si mes informations sont bonnes, je pense que ça a été reporté pour une semaine. Le CJA ne fait pas partie...
On parle du 19.
Les éléments ne pas du 19, c'est ça. Le CJA ne fait pas partie de la région de Taoudéni. Le CJA fait partie de la région de Tombouctou, notamment dans une petite localité du cercle de Goundam. C'est vrai, c'est un groupe actif qui a des armes. Est-ce que tu vois qu'il y a des armes? Si le CJA comptait, comme Serge veut nous le faire croire, on allait prendre le CJA en compte, comme on a pris les gens de Gao en compte. Les gens de Gao, tout le monde a vu le mouvement, les gens qu'ils ont mobilisés, ce qu'ils représentent. Mais dans un processus de paix, on ne peut pas à tout moment accepter que des groupuscules se créent et exigent avoir les mêmes avantages, les mêmes situations que les mouvements historiques. Cela n'est pas possible. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait la fermeté et que ceux qui sabotent ou boycottent le processus de paix soient sanctionnés. Je pense qu'on en a parlé récemment à l'ONU. On attend que les Nations Unies s'assument et que le gouvernement du Mali également s'assume et devienne ferme par rapport au processus de paix.
Merci, Chana Takiou.
Action.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Merci de suivre le forum de la presse. Bandugu Dante voulait réagir, mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une petite manipulation de la part du gouvernement et aussi de la part des groupes armés de la population, justement de Tombouctou et de Taoudéni, par rapport à ces histoires d'autorité intérimaire?
Bon, en réalité, moi je voudrais qu'on fasse... qu'on tient compte du concret. Il ne s'agit pas seulement de prendre en compte celui qui s'agite avec les armes. Il est très important d'éviter de cristalliser les mécontentements des groupes qui habitent la région. Vous allez imposer parfois des autorités ou encore des pouvoirs de certains parce qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes sur des populations qui sont obligées de supporter de telles situations, ça ne fait qu'envenimer. Ça ne fait que créer des frustrations, ça ne fait que créer des mécontentements. Parce que finalement, les uns et les autres vont avoir le sentiment que pour être entendus, il faut prendre les armes. Donc je pense que là, le gouvernement doit faire preuve de plus d'habileté politique pour amener les gens à se reconnaître dans ces autorités qu'on va créer, plutôt que de prendre en compte les préoccupations des groupes qui n'ont que seule représentativité, les armes dont ils disposent.
Merci. Togola Ouassemega, est-ce qu'il faut organiser une espèce de conférence d'entente sur Tombouctou, à Tombouctou justement, pour décanter cette situation qui tarde?
Moi, je pense que Serge a employé un terme, notamment la communication. C'est extrêmement important. Il est important de tenir compte, de communiquer avec la population locale sur place. Il ne faut pas leur imposer quelqu'un, des autorités, juste pour leur imposer ces autorités-là. Il faut tenir compte des personnes qui sont déjà sur place et qui sont là-bas, qui sont capables de gérer la situation. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des gens de Bamako pour aller les installer à Taoudéni ou à Kidal. Donc, il faut prendre des populations, je pense, qui sont déjà sur place et qui ne font pas le nomadisme, on va dire.
Serge Daniel, est-ce qu'il faut justement, si d'autres groupes émergent, est-ce qu'il faut également les prendre en compte?
Nous avons une réalité sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un accord de... Ce qui se passe, vous avez l'accord d'Alger qui a été signé par des groupes. Mais entre-temps, des groupes se sont créés sur le terrain, où il y a eu une scission à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire ce sont les limites de l'accord d'Alger. Je ne vais pas parler de caducité de certains articles parce que Chahana Takiou ne va pas être d'accord. Donc ce qui me paraît quand même important, c'est de revoir la réalité, c'est-à-dire que l'accord d'Alger ne peut plus être le seul médicament qui va soigner les Maliens. Est-ce que vous voyez, madame? Je pense qu'il faut réadapter les choses. C'est-à-dire que vous avez des scissions au sein des groupes et les groupes disent aujourd'hui, nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas dans l'accord d'Alger, mais on est sur le terrain. Donc c'est ce que je pense. Vous allez avoir d'autres groupes qui vont se créer. Ce matin, j'ai appris...
Justement, comment gérer ça?
Mais c'est ça le problème. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas tenir, il ne faut pas définir la force d'un groupe par les armes seulement, il ne faut pas tenir compte de ceux qui ont les armes seulement. Mais vous savez, nous sommes dans cette salle aujourd'hui. S'il y a un petit coup de pétard ici, tout le monde va se sauver. Donc c'est capital dans une crise, si vous voulez. Et donc dès qu'on crée un mouvement armé, tout de suite on est respecté. Et puis plus vous êtes fort, plus vous êtes considéré. Vous voyez ce que le gouvernement fait, ou les ONG font aujourd'hui. Quand des groupes armés viennent par exemple en réunion à Bamako, les plus forts, on les loge dans les hôtels de 5 étoiles. Les plus faibles, on les loge dans les hôtels de 2 étoiles. Mais vous voyez, plus vous êtes important, et ce n'est pas normal, donc vous voyez. On entretient la crise par la crise, si vous voulez. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour cette raison que j'estime, moi, que la conférence d'entente nationale est vraiment une chance pour sortir de tout ça, pour étaler de tous ces problèmes. Et c'est pour ça que je suis très heureux que ça ne soit pas terminé le 2 avril, le 2 avril comme prévu, et qu'il y aura une nouvelle respiration. Vous allez avoir des groupes, il faut revoir ça. Que fait-on des groupes armées constituées après la signature de l'accord d'Alger.
Et ceux qui vont encore être constitués encore et encore. Alors, la première session de la Haute Autorité de la Communication pour 2017 a débuté vendredi, un accent particulier sur la situation des radios. On va écouter Gaoussou Drabo de la HAC.
Le nombre de radios qui sont en situation irrégulière approche la centaine. Parmi ces radios, vous avez 47 qui diffusent sans aucune autorisation. C'est la situation la plus grave. Les autres, au moins, ont un papier qui leur permet d'exister, mais celles-ci n'ont aucune autorisation. À celles-ci, nous avons fait, à partir du mois de novembre, un certain nombre de mises en demeure pour leur dire que si elles avaient des autorisations qu'elles produisent, si elles pouvaient se justifier qu'elles le fassent, sinon, il y a une sanction qui va arriver. Personne n'a pu, en fait, produire de justification. Donc depuis le mois de février, on a rédigé un certain nombre de décisions de fermeture des radios. Bon, le grand problème, c'est effectivement l'acheminement de ces décisions. L'un des problèmes qu'on a eu et qui nous a beaucoup retardé, c'est que du point de vue de l'arsenal juridique, nous n'avions pas les moyens d'agir.
Alors, Bandjougou Danté, vous êtes le président de l'URTEL, 47 radios qui émettent sans autorisation.
Radio et télévision,
qu'est-ce que radio, uniquement les radios, hein.
Vraiment, je demande à nos amis de la HEC de mettre un peu d'eau dans leur vin. On ne ferme pas une radio comme on ferme une boutique. Parce que ces radios sont implantées dans les localités, ils ont un caractère sociologique assez important. Maintenant, pourquoi ces radios n'ont pas pu produire d'autorisation? Beaucoup de ces radios ont des accusés de réception. Dans ce pays, auparavant, pour créer une radio, il fallait un arrêté interministériel. Les gens formulaient la demande. Il déposait la demande au niveau du ministère de la Communication, qui est censé examiner ces demandes. Et c'est le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Communication qui étaient habilités maintenant à donner les autorisations. Mais on a constaté qu'au niveau du ministère de la Communication, des conseillers, des secrétaires généraux ont parfois signé des autorisations provisoires pour certaines radios. Moi, je viens déposer ma demande pour créer une radio. Je n'ai pas de réponse au bout de plusieurs années. Les députés de la localité, les maires de la localité, les ministres de la localité viennent implanter sa radio. Il a le papier, une autorisation. Vous voulez venir fermer cette radio qui a un accusé de réception? C'est vrai, l'accusé de réception n'est pas une autorisation. Mais il a déposé la demande. On ne lui a pas demandé de ne pas émettre. Il a attendu. Il a ses équipements. L'autre est allé acheter ses équipements après lui. Il a commencé à émettre. Il a même un papier, qu'il soit provisoire ou définitif. Moi, je pense que c'est des aspects à prendre en compte. L'URTEL a toujours été du côté de la HAC pour gérer avec modération, avec pondération, ces différents problèmes en tenant compte de l'aspect sociologique des radios, mais nous nous opposons fermement à la fermeture des radios. Maintenant, si les radios deviennent des radios scandaleuses, cela n'est pas le cas. Si ça devient des radios mille collines, nous allons aider la HAC à les fermer. Mais fermer des radios parce qu'ils n'ont pas de papiers. Qu'on donne les papiers à tout le monde et qu'on régularise maintenant. Pourquoi ils n'ont pas de papiers? Nous nous opposons fermement à la fermeture des radios. Maintenant, les radios scandaleuses, vraiment, il faut aider à les détruire. Détruire entre guillemets. Mais quand il s'agit de fermer quelqu'un parce qu'il n'a pas les papiers, pourquoi il n'a pas les papiers? Posons-nous cette question. Qui n'a pas fait son travail?
Togola, Ouassé, Mega, une quarantaine de radios, ce qui représente environ 10% hein, des radios qui existent au Mali, en tout cas des radios de l'URTEL, moins de 10% déjà, ok.
Mais la précision que je vais donner, parmi ces radios, aucune radio de l'URTEL ne figure. Pourquoi? Parce qu'à l'URTEL, nos 385 radios sont des radios légalement implantées.
385?
Oui, bien sûr. Nous en sommes fiers.
Rien que de l'URTEL. Hein?
De l'URTEL. Maintenant, les radios qui n'ont pas d'autorisation, nous n'avons pas accepté. Quand l'État a fermé les yeux sur les radios illégales, l'URTEL a dit la première condition pour être membre de l'URTEL, il faut être légalement créé. Mmh. Et si jamais nous, on avait accepté ces radios sans autorisation, on se serait retrouvé dans une situation difficile parce qu'il fallait défendre des choses, des gens qui n'ont pas de papiers. Mais des gens parmi ces radios qu'on se propose de fermer ont cherché à adhérer à l'URTEL. Nous avons dit que vous n'avez pas de papiers. D'autres sont venus après et avec les papiers, nous les avons acceptés. Donc, soyons justes.
Justement, merci. Togola Wasemega, oui. Est-ce qu'en fermant justement une quarantaine de radios, cela resterait sans conséquence sur les communautés qui ont quand même besoin de.
Non, ce ne serait pas sans conséquence, c'est clair. Mais j'estime que quand tu n'as pas de papier, tu ne dois pas émettre. Il faut une autorisation pour pouvoir émettre, pour être dans les règles. Et je pense que Bandungu Dante est en train de dire une chose et son contraire en disant que vous avez accepté certains qui avaient, vous n'avez accepté aucune radio qui n'a de papier. Mm-hmm. Donc j'estime que quand les 40 qui sont là,
vous
qui n'ont pas de papier.
Nous avons accepté des radios qui ont les papiers. Mm-hmm. Mais il y a des radios qui sont dans le processus de recherche des papiers depuis plusieurs années, mm-hmm, parce qu'ils n'ont pas pu produire le papier que nous avons accepté. Mm-hmm. Mais certains, ayant les bras longs, sont venus après ceux qui ont les bras courts avec les papiers. L'URTEL les a acceptés uniquement parce qu'ils ont les papiers.
Justement, moi je pense qu'une radio normalement ne doit pas émettre quand elle n'a pas de.
Et si une radio qui émet depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans sans papiers, hein, ayant son public, ayant son milieu, sa communauté, fermer cette radio n'est pas, cette radio ne peut pas être fermée comme on vient fermer sa boutique.
Alors, Shana Takiu souhaite réagir justement sur cette première session.
Oui, c'est-à-dire que l'URTEL, nous l'avons attendu depuis très longtemps. Il y a eu des violations graves de déontologie. Est-ce que vous voyez, nous n'avons pas senti l'URTEL, j'ai dit l'URTEL, la HAC. On n'a pas senti la HAC. On a besoin de la HAC pour réguler ce secteur-là, certes, mais réguler ce secteur commence d'abord à sensibiliser les gens, à les éduquer, à les former afin qu'ils travaillent dans un cadre professionnel. Moi, j'estime pour ma part que toutes les radios qui travaillent de façon professionnelle, qui respectent la déontologie, doivent continuer à émettre parce qu'ils aident la démocratie, parce qu'ils aident les communautés, parce qu'ils aident notre pays et les populations à comprendre beaucoup de choses. Ces radios-là, qui sont correctes, qui respectent la déontologie, l'URTEL se doit de les aider à avoir les papiers et non de les fermer. J'ai dit l'URTEL, la HAC. La HAC doit les aider. Ils ont le matériel, ils ont les journalistes, ils travaillent bien et de leur avoir le sésame. Merci. Et de lui avoir les papiers. C'est vrai que de façon générale, quand on n'a pas de papiers, ce n'est pas normal d'exercer. Ce n'est pas normal d'émettre. C'est vrai.
Merci,
mais
Shana.
Nous sommes dans un système
on va laisser Serge Daniel réagir. Il nous reste à peine une minute, Shana.
Bon, je voulais Serge tout Daniel. Simplement dire qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi, mais il faut rapidement rappeler comment les radios ont, les journaux, la liberté de la presse en 91, tout le monde s'est installé comme ça et on a régularisé les gens. Bon, ça c'était un des peu. Il faut respecter la loi, mais il faut éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures. Pour la simple raison qu'à l'intérieur, on vous parlait de ces radios que je connais un peu, que je fréquente quand je vais à l'intérieur. Si vous êtes là, vous avez une autorisation provisoire et que celui qui vient après vous, 6 mois, 1 an, 2 ans, a une autorisation définitive, ça veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il y a des bras longs et des bras longs. Alors, il faut régler tout cela, mais encore une fois, dans le cadre, certes, de la loi, mais des réalités également sur le terrain.
Merci Serge Daniel. C'est la fin de cette émission. Posez-nous vos questions, contribuez au Grand Dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12-12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandjalo. Sedumbo était à la mise en onde. Gagné Kanté à la régie vidéo. Merci à vous, chers invités, également.
Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumondi.
Chenne Beri. Siki Kafoba.